Amis pèlerins, bonjour! La colonne partira cette année avec vous ou peut-être sans vous. Mais l'appel, lui, reste toujours le même. Marchez vers le Christ roi. Que vous soyez sur le bivouac, au bureau ou dans votre salon, ces 9 épisodes sont là pour vous faire avancer, pas à pas, vers le cœur du pèlerinage, le règne du Christ, sur la terre comme au ciel. Alors, prenons la route.
Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de l'Homme Nouveau, réalisé en partenariat avec Notre-Dame de Chrétienté.
J'accueille donc Isabelle Piau, directrice de la formation pour le pèlerinage. Bonjour Isabelle.
Bonjour Maïtena.
Cette année, dans le cadre du centenaire de l'encyclique Quas Primas, publié en 1925 par Pie XI et instituant la fête du Christ roi, le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté a choisi comme thème « Pour qu'il règne sur la terre comme au ciel ». Je rappelle à nos auditeurs que l'Homme Nouveau, dans le cadre de ce centenaire, a également tenu à le célébrer en inaugurant une année du Christ roi. Une série de personnalités ont d'ailleurs participé à une enquête sur l'enseignement de cette doctrine, que nous publierons tout au long de l'année dans notre magazine. Ces textes sont également disponibles dans notre dossier « Année du Christ roi » sur notre site internet. Pour en revenir à notre émission, nous explorerons donc les différents enjeux du thème de votre pèlerinage cette année, le règne social du Christ, en donnant la parole au cadre de notre âme de chrétienté. Aujourd'hui, nous accueillons Michel. Bonjour Michel.
Bonjour Maïtena.
Vous êtes chef de région pour le pèlerinage et vous avez également participé à la rédaction des méditations cette année. Et vous venez nous parler des ennemis du règne social du Christ et nous allons voir ensemble quelles sont les idéologies et les erreurs qui s'y opposent, pourquoi elles se sont imposées aujourd'hui et surtout comment les catholiques peuvent y répondre. Tout d'abord, avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, quel est votre rôle au sein de notre âme de chrétienté ?
Alors, je suis chef d'une des régions de notre âme de chrétienté qui en fait... Le pèlerinage est structuré avec des chapitres et des chefs de chapitres. Je suis donc chef de chapitres.
Très bien. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quels sont les principaux adversaires du règne social du Christ ?
C'est une bonne question. Tout d'abord, permettez-moi de revenir sur la définition du règne social du Christ. Social se réfère à la société. C'est donc le règne sur la société du Christ. Quel est-il ce règne ? C'est l'ordre harmonieux voulu par Dieu, dont le Christ est la tête. Il se compose essentiellement de 3 sociétés, la famille, qui est la cellule de base de la société, la nation, qui est une famille de famille, et l'Église. Ajouté à ces 3 sociétés, il y a une myriade d'autres petites sociétés qu'on appelle les corps intermédiaires. La tête de cet ordre harmonieux est le Christ, c'est la pierre d'angle. La chrétienté a fleuri sur l'héritage gréco-romain, et s'est épanouie grâce au christianisme. Elle est le terreau souvent nécessaire à l'homme pour vivre dans la grâce de Dieu. Le premier ennemi donc de cette chrétienté, c'est le démon qui fait tout pour empêcher le salut de l'homme. Et là, on commence à venir vers la réponse à votre question. Donc le premier ennemi, comme mentionné, de la chrétienté, c'est le démon qui veut tout mettre par terre. Et malheureusement, il trouve des alliés parmi les hommes. Ces alliés, je les classifierais en 3 types. La première, c'est ce qu'on peut appeler la révolution, au sens large du terme, qui est bien plus que la révolution française, qui est ce naturalisme qui rejette l'ordre créé, et là, qui sont des alliés du démon, puisqu'ils ont l'attitude, son attitude, qui est de dire « non serviam, je ne servirai pas ». La deuxième catégorie, c'est malheureusement une fange non négligeable des catholiques, qui se soumettent aux ennemis du Christ et qu'on peut classifier comme les catholiques libéraux. Et la troisième catégorie, hélas, c'est nous-mêmes, parce que chaque fois que nous péchons et que nous allons à l'encontre de la volonté du Christ, nous nous faisons les alliés du démon.
Alors, vous parlez du naturalisme, mais pourquoi le naturalisme est incompatible avec la doctrine catholique sur le Christ roi ?
Alors, le naturalisme, c'est pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? En fait, vouloir faire confiance à sa nature plutôt que à la grâce et à Dieu. Donc en fait, le naturaliste, tout d'abord, le premier naturaliste, c'est le démon, c'est Satan. Puisque en fait, sa manière de rejeter le Christ, son non serviam, c'est directement cette haine de l'ordre, ce refus d'obéir à l'ordre divin. C'est Saint Thomas l'explique dans sa somme théologique, où en fait il a préféré se réfugier dans sa nature, par orgueil, se réfugier dans la supériorité de sa nature plutôt que de se soumettre à Dieu. Et la réaction au naturaliste, au premier naturaliste, c'est Saint Michel avec le Quis ut Deus, qui est scandalisé par Lucifer, qui rejette, désordonne en fait cette création divine par son attitude orgueilleuse, son péché d'orgueil, il rejette cette création divine. Et Saint Michel.
Pardon de vous couper, mais pour les non-latinistes qui nous écoutent, Quis ut Deus.
C'est qui est comme Dieu.
Merci.
C'est le cri de Saint Michel scandalisé par rapport à Satan qui dit moi je ne servirai pas. Donc c'est si on a vraiment deux oppositions, si on veut vraiment comprendre le naturalisme, c'est non serviam, donc je ne servirai pas de Lucifer, et l'opposé du naturalisme, c'est Notre-Dame quant à l'Annonciation, qu'il soit fait selon votre parole. Voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon votre parole. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si l'Église nous demande de réciter trois fois par jour l'Angélus, parce qu'en fait, à l'Angélus, on se remémore cette attitude de dépendance volontaire à l'égard du bon Dieu, et de vouloir faire sa volonté, et de continuer le plan qu'il a voulu pour nous.
Mais dans naturalisme, on entend le mot nature, cette nature elle est bonne, créée par Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez préciser un peu plus ?
Oui, bien sûr. En fait, il ne s'agit pas de nier la nature et de la croire mauvaise. Bien au contraire, ce que fait Dieu est bon. Mais c'est une attitude qui désordonne la nature. Puisqu'en fait, cette nature qui est bonne, elle s'inscrit dans cet ordre harmonieux. Et dans cet ordre harmonieux, c'est une dépendance. Cette phrase de l'Évangile, c'est « que n'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et donc, par nature, quand on est un peu lucide sur notre nature, on se rend compte qu'on est dépendant. Et en fait, c'est dénaturer notre nature que de vouloir se rendre indépendant. Voilà, donc c'est en fait ce naturalisme, c'est bouleverser la création en voulant couper Dieu, qui est la racine de tout bien, et en voulant se réfugier dans la nature.
Parmi les erreurs, il y a aussi le libéralisme et le relativisme moderne. En quoi est-ce qu'ils sont des obstacles au ce règne du Christ ?
Si votre question est intéressante, j'y répondrai d'abord en revenant sur le naturalisme, qui en fait est considéré un peu comme l'erreur mère, puisque en fait, en amont, enfin une fois que vous avez coupé la racine et rejeté le plan de Dieu, vous développez autre chose. Et là, on voit le lien entre naturalisme et libéralisme. En fait, c'est que la liberté qui fait partie de notre nature, donc qui est cette capacité à aimer le bon Dieu. Parce que, en fait, pour aimer, il faut pouvoir choisir librement. Enfin, pour que ce soit un acte méritoire, enfin, c'est la preuve de l'amour, c'est qu'on sait poser un acte méritoire. Et donc, pour que l'acte soit méritoire, il faut le poser librement. Et en fait, cette liberté donnée à l'homme, elle a pour but de pouvoir choisir Dieu. Et alors la liberté, ce n'est pas de vouloir ce qu'on veut, c'est de choisir librement le bien. Et à partir du moment où on rejette le bien, en fait, on se retrouve esclave du mal. Donc il y a vraiment cette liberté n'est qu'un moyen terme pour pouvoir choisir Dieu. Le naturalisme, en fait, donc vous vous réfugiez dans votre nature, et en aval, vous faites de la liberté un absolu. Et donc, en fait, vous dénaturez la nature. Oui, vous rejetez la nature, vous devenez votre propre mesure, et votre but absolu, c'est de faire comme Satan, c'est non serviam, je ne servirai pas, je ferai ce que je veux.
Et pour ce qui est du relativisme ?
C'est le cousin du libéralisme. Parce qu'à partir du moment où on fait ce qu'on veut, eh bien, on prend des distances avec la vérité, puisqu'en fait, on est dépendant de la vérité. C'est la vérité, on ne la possède pas, c'est elle qui nous possède. Donc, à partir du moment où vous dénaturez la vérité, eh bien, vous éloignez de la vérité, et donc à partir de ce moment-là, tout s'équivaut, il n'y a plus de repère fixe, tout devient malléable, et on se trouve dans le relativisme. Et donc le relativisme est un cousin du libéralisme.
Alors je reprends votre introduction, vous avez parlé du naturalisme, du libéralisme et de la révolution, comme dans les ennemis principaux. Et donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que la révolution française est un point de rupture principal dans l'histoire de France, du rejet du règne du Christ ?
Alors, oui, bien sûr. C'est, Dans l'histoire de France, c'est le point principal de rupture. Et en fait, le terme de révolution, il est bien plus large que révolution française. Vous avez Jean Houssaye qui le définit très bien dans Pour qu'il règne. Il consacre toute une majeure partie de son livre à la révolution, qui en fait naît de manière dans la pensée à la Renaissance. Et Maritain, avant qu'il sombre dans le catholicisme libéral, a écrit un livre qui s'appelle Les Trois Réformateurs, dans lequel il cite donc Luther, Voltaire et Descartes. Parce que Descartes, c'est le premier donc, à amener la révolution au sens philosophique, où c'est plus l'être précède l'agir, mais avec Descartes, c'est l'agir précède l'être. Donc ça, c'est la première révolution philosophique. La révolution, le deuxième réformateur que Maritain dénonce est Voltaire, avec les principes politiques de la philosophie des Lumières, qui sont aussi ce rejet de l'ordre de l'ordre chrétien. Et le troisième réformateur, Luther, qui est aussi le protestantisme, avec ce rejet du dogme et de la vérité révélée et de l'institution qu'est l'Église.
Et est-ce qu'il y a une radicalisation supplémentaire depuis la Révolution française, ou est-ce qu'on est juste dans une suite logique
Oui, il y a, en fait, la Révolution, c'est le principe, c'était déconstruire. Donc il a fallu ébranler l'édifice sérieusement, c'est ce qui a été fait en coupant la tête du roi, pour pouvoir détruire la chrétienté. Et le but de la Révolution, c'est le néant. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le siècle de l'enfer de Gustave Gorsau, qui démontre justement cette progression de la révolution au XXe siècle, et qui se concentre sur le XXe siècle. Donc ça, c'est il y a tout le laïcisme qui est aussi indépend de la révolution, mais en fait, au global, la révolution, c'est la déconstruction de la chrétienté. Et en fait, la déconstruction de la chrétienté, c'est un néologisme, déconstruction. Ça veut dire détruire pierre à pierre. Normalement, c'est un vocabulaire qui n'existait pas dans le dictionnaire français. Et donc, ce mot déconstruction a été rajouté pour détruire l'édifice pierre à pierre. Et vous avez globalement, donc il fallait détruire l'État catholique qui protégeait l'ensemble de la société, qui protégeait les familles. Il fallait détruire l'Église. Donc c'est leur plan, effectivement, principalement en l'infiltrant et en détruisant de l'intérieur. Et la suite logique de la Révolution, c'est de détruire le Christ-Roi, qui est la pierre angulaire de la chrétienté. Et donc c'est ce laïcisme, en fait, qui veut supprimer la pierre angulaire et supprimer le Christ-Roi de la société.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, définir un peu plus précisément ce que c'est que le laïcisme et en quoi ça contrevient directement au règne social du Christ ?
Ce laïcisme, c'est la volonté de chasser Dieu de la société. Et donc, si vous voulez, c'est Jules Ferry qui dit « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu ». C'est vraiment cette volonté de rompre. En fait, normalement, il y a une union du pouvoir temporel et spirituel. Union n'est pas confusion. Et en fait, au contraire, c'est et distinction et union. Enfin, c'est vraiment important. Ils sont distincts et unis. Et ils travaillent main dans la main de manière complémentaire. Et cette volonté, eh bien, c'est de supprimer Dieu de la société et de faire une société laïque. Donc, je pourrais vous citer Vincent Peillon, par exemple, donc l'ancien ministre de François Hollande de l'Éducation nationale, qui disait « Face à du positif, il faut du positif. La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre. Elle est offensive, conquérante. Elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique, où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que le retour en arrière sont possibles, que la neutralité n'existe pas et sont donc impossibles. » Cette laïcité définie ainsi a été très clairement condamnée par les différents papes, que ce soit Pie IX dans Quanta Cura, Saint Pie X dans l'encyclique Vehementer, Pie XI dans Maximum Gravimusque, en 1924. Je vais vous citer Pie XI. Donc en 1924, « Toutes les fois que par laïcité on entend un sentiment ou une intention contraire ou étranger à Dieu et à la religion, nous réprouvons entièrement cette laïcité et nous déclarons hautement qu'elle doit être réprouvée. »
Et donc, on ne peut pas être catholique et accepter pleinement les principes du libéralisme politique.
clairement non. Ce qui est difficile, c'est que si oui, on doit d'un côté avoir une intégrité doctrinale, puisque on ne transige pas avec la vérité. Hein, c'est, je vous cite le Christ, je suis la voie, la vérité et la vie, et la vérité vous rendra libre. Et il y a vraiment un tout doctrinal auquel on adhère sans compromis, et on ne peut pas faire de compromis avec la doctrine. En revanche, avec les gens, une société imparfaite, une société compliquée, c'est là où il y a parfois le principe de prudence, certains principes de prudence qui s'appliquent et qui font que, eh bien, on peut avoir des tolérances. Donc c'est la notion chrétienne de tolérance, c'est face à un mal certain qu'on ne peut pas combattre et qui est présent dans la société, eh bien, si on voulait le supprimer, on n'a pas les moyens de le supprimer, eh bien, le chrétien doit tolérer ce mal-là, le combattre en interne et le supprimer dès qu'on peut. Si vous voulez, comme principe de tolérance qui a été une vraie tolérance, c'est par exemple la publication de l'édit de Nantes, face à une guerre civile atroce qui a ruiné la France et qui la divisait profondément. Eh bien, il fallait, le mal protestant étant très répandu, le seul moyen de repartir sur une société à peu près saine était de tolérer ce mal-là dans la société.
Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes, catholiques, parfois tentés par certains aspects du libéralisme ?
Bien sûr. Et ça, je reviens au début, les trois types d'ennemis qui freinent l'expansion du Christ au roi, ce sont les ennemis directs, les serviteurs de la Révolution, les catholiques libéraux qui s'adonnent à l'erreur, et nous-mêmes, par nos tiédeurs et nos lâchetés. Saint Pidis a une citation très claire: la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. Je crois qu'il y a un triptyque infernal, en fait, qui nous tire vers le bas, qui est composé de la tiédeur, le respect humain et l'attitude libérale. La tiédeur, donc, plus on progresse dans l'amour, plus on est ardent, et donc moins on est tiède. La tiédeur est un excès par défaut, non un juste milieu. Il y a ce verset de l'Apocalypse qui est parlant: c'est aussi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Deuxièmement, le respect humain. C'est la crainte du jugement des hommes, une attitude qui conduit à adopter des comportements conformistes dans la crainte de déplaire, du qu'en dira-t-on. Rappelons-nous ce verset de l'Évangile: celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Troisièmement, l'attitude libérale. Nous croyons dans la vérité de l'Église, mais ne croyons pas assez dans l'efficacité de ses principes. Nous sommes donc prêts à tout brader, soi-disant, pour l'harmonie de la société. Alors que nous savons bien que nulle paix sociale ne peut advenir sans le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette citation de Pie XII: le Christ est le maître unique. En lui seul peut se trouver le salut du monde, avec toutes ses structures, et des hommes avec tous leurs problèmes. Il n'est de salut en aucun autre.
Quand on voit la société actuelle, et parfois même dans l'Église, quand vous parlez de respect humain, comment savoir si c'est une question de pédagogie, et à quel moment est-ce qu'on bascule, en fait, dans le respect humain ? Comment savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, et comment savoir doser, en fait, justement, entre la tiédeur et la pédagogie ?
J'irais prier, d'abord, réfléchir, agir. C'est dire: mon ange gardien, votre ange gardien est spécialement là pour ça, donc confiez-vous à votre ange gardien. Mon ange gardien, aidez-moi, au Saint-Esprit, éclairez-moi. Ça prend 2 secondes, c'est facile, ça se fait bien. Réfléchir, puisque le bon Dieu compte sur nous, sur nos propres moyens pour pouvoir agir. Donc là, c'est simplement être formé aussi en amont, donc c'est être habitué à réfléchir. Et là, troisièmement, c'est agir en cohérence avec les deux premières étapes.
Et alors, quand on voit notre société actuelle, est-ce que l'Église n'a pas failli en acceptant la sécularisation des États ?
L'Église n'a pas failli, car elle est l'épouse du Christ, elle est la mère et maîtresse de toute doctrine, elle enseigne la vérité. En revanche, elle est composée d'hommes qui, eux, peuvent faillir. Ces hommes connaissent parfois des errements, parfois se trompent, parfois vont clairement, hélas, à l'encontre de la demande du Christ. Mais quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est 2000 ans de crise. Ne nous trompons pas. Si nous constatons des déficiences, il faut nous rappeler que c'est nous qui sauvons l'Église, mais c'est bien l'Église qui nous sauve. Les Arnauds des Clercs ne nous dédouanent pas de l'obéissance au pape et aux évêques. Quant à l'acceptation par les hommes d'Église de la sécularisation que l'on constate, je crois qu'elle peut se décomposer en deux étapes. La première, malheureusement, le ralliement en 1892, Léon XIII demanda aux catholiques de se rallier à la démocratie moderne. Cette ingérence de la papauté dans la politique française serait taxée aujourd'hui de cléricalisme. Et je crois que malheureusement, Léon XIII a une lecture politique faussée par un erreur de jugement dans la démocratie. Il croyait avoir affaire à la démocratie classique, qui en soi est un moyen bon quand il est bien adapté pour choisir un chef. Mais nous sommes face ici à la démocratie moderne, qui est une idéologie essentiellement basée sur la philosophie des Lumières, et qui est empreinte de naturalisme, qui est vraiment cette volonté de rejeter l'ordre créé et la soumission que l'homme doit avoir par rapport à cet ordre créé. La deuxième étape, c'est le développement d'une doctrine qui appelle à la sécularisation de l'État, et en particulier portée par le modernisme. Le modernisme, c'est une hérésie qui s'infiltre dans l'Église à partir de la fin du XIXe siècle, qui a été fermement condamnée par le pape Saint-Pie X, et qui malheureusement a repris de plus belle après la mort de Saint-Pie X, et qui n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une partie non négligeable du clergé qui est empreinte de ce modernisme et qui ne croit plus à la royauté sociale du Christ. Mais rassurez-vous, l'Église est la seule société qui a la promesse de toujours perdurer. Lorsque le bon Dieu voudra, il enverra des saints qui la relèveront. Demander à Dieu qu'il mette fin à la crise est une prière que nous devons avoir à cœur de faire tous les jours.
Pourquoi la chrétienté n'a-t-elle pas réussi à s'imposer face aux idéologies modernes, puisqu'elle est si vraie, si équilibré et si ordonné?
Il faut reprendre l'histoire du 18e, 19e et 20e siècle. Mais ce qu'on voit, en fait, ce qu'on voit au 18e siècle, c'est de l'attiédissement des élites. Et là, on tape directement dans la citation de Saint-Pie X, c'est la force des méchants, c'est la faiblesse des bons. Donc on a d'abord cet attiédissement de cette élite. Et une fois que le fruit est suffisamment mûr, le raz-de-marée qui emporte la société catholique. Et après tout le 19e siècle, vous avez ce qu'on appelait la contre-révolution, qui était vraiment les partisans du Christ-Roi, sans bien sûr, Quasprimas n'existait pas encore à cette époque-ci, mais vous avez vraiment ces partisans de la chrétienté qui veulent le retour, cette lutte politique pour le retour du Christ-Roi et de la chrétienté.
Est-ce que vous pouvez, pardon, beaucoup pour nos auditeurs, nous citer quelques noms, peut-être à lire, de la contre-révolution?
Les quelques noms, le premier, c'est... Il y a Blanc de Saint-Bonnet, qui est un Français, donc du début du 19e. Vous avez Joseph de Maistre, par exemple, aussi, c'est un Savoyard, entre autres, par exemple, Joseph de Maistre, c'est lui qui a converti la comtesse de Ségur. Donc il était en ambassade auprès de du tsar, et c'est là où il a connu la comtesse Rostopchine, et donc qui grâce à lui a adhéré au catholicisme. Vous avez au XXe siècle, je vous dirais les figures les plus récentes, je vous dirais Jean Housset et Jean Madiran. Et donc la Révolution, c'est vraiment une école qui a 200, plus de 200 ans d'existence, et qui est vraiment de combattre l'erreur de cette société naturaliste et relativiste en voulant rebâtir la chrétienté et en ayant redéveloppant ces points de doctrine.
Je me permets d'ajouter pour nos auditeurs le cardinal Pie et Louis Veuillot, il me semble, qui sont des figures importantes de la contre-révolution. Et enfin, une dernière question avant de finir pour les pèlerins qui nous entendent. Comment les pèlerins peuvent-ils aujourd'hui faire face à ces ennemis et défendre la royauté du Christ dans leur vie quotidienne?
Est-ce qu'ils doivent faire le deuil d'une chrétienté ou bien espérer un retour à l'ordre social chrétien?
Je commencerai par vous répondre en citant Saint-Pie X. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette pas les bases et ne dirige pas les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Omnia instaurare in Christo. Donc c'est Saint Pilius utilise le présent. Donc oui, c'est quelque chose de, c'est le plan de Dieu sur la société. Il est comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas, qui ne change pas. Et le, effectivement. La première des charités, je crois que c'est Pie XI qui disait ça, c'est la politique, puisque c'est cette structure qui est, en fait, pour que les âmes puissent se sauver, la chrétienté est nécessaire. Et donc, alors, pas toutes, hein, mais dans les temps difficiles, il n'y a que les âmes d'élite qui se sauvent, mais pour une grande, c'est ce que dit Pie XII, de la forme donnée à la société découle directement le bien ou le mal pour les âmes. Et donc c'est une nécessité pour le salut d'un grand nombre. Et certes, aujourd'hui, la chrétienté est mal en point, mais notre force est là-haut. Enfin, je vous citerai Saint-Jean d'Arc, c'est « Au nom de Dieu, les hommes d'armes combattront, et Dieu donnera la victoire. » Et Dieu fait des grandes choses avec des petits riens, mais il ne fait pas avec des riens. Donc notre rôle, nous, c'est d'être ces petits riens, et Dieu fera des grandes choses. Et en particulier, sur cette... il y a les apparitions de Notre-Dame à Fatima, où Notre-Dame propose la dévotion à son cœur immaculé pour la conversion des pauvres pécheurs qui se donnent parce que personne ne prie pour eux. Et donc ça rejoint un peu cette citation de Pie XII qui dit de la forme donnée à la société découle ou bien le mal des âmes. Donc ça c'est d'abord donc c'est la prière avec la dévotion au cœur immaculé de Marie, et je crois que ça viendra dans les podcasts suivants. Il y a la formation, parce que pour défendre la vérité, eh bien, il faut la connaître. Donc ça, c'est former son intelligence et sa volonté. Et puis, troisièmement, agir en chrétien. Et là, il y a une multiplicité d'actions. C'est chacun à son niveau peut agir pour la chrétienté. Vous avez
justement chacun à son niveau, parce que là, on parle beaucoup de règne social du Christ, on parle de politique, mais certains peuvent se dire, moi, je suis pas concerné par cette action, par mon combat, mon engagement, il est ailleurs. Dans quelle mesure est-ce qu'on est tous appelés à œuvrer pour cette chrétienté ?
Eh bien, mon Dieu, il distribue à chacun ses talents. Et donc, c'est la première chose, c'est se connaître et connaître ses talents et ses capacités. Et je vais vous citer, par exemple, des formes très variées, si vous voulez, mais le jeune homme de 20 ans qui est chef de troupe et qui se dévoue pour ses scouts, eh bien, il sert la chrétienté parce qu'il fait les chrétiens demain. La mère de famille qui est de nombreuses, qui se dévoue pour ses enfants à la maison, et effectivement, bah, c'est parfois par les tâches humbles du foyer, eh bien, elle sert aussi la chrétienté parce que c'est la famille, c'est le socle, la nation, la cellule de base de la société. Le chef d'entreprise qui agit selon les règles et par son exemple en bon chrétien, applique la doctrine sociale de l'Église en matière économique, eh bien, il sert la chrétienté. La personne qui se dévoue comme chef de chapitre au pèlerinage de Chartres, il sert la chrétienté. Il y a vraiment une forme multiple. Après, il y a aussi l'engagement politique qui est aussi une réalité. Mais je crois que c'est la suite du...
Il y aura une prochaine émission.
C'est ça. Mais donc, si vous avez vraiment... tout le monde a des talents. Et bien, ces talents, on peut les mettre au service du Christ roi.
Très bien, je vous remercie Michel.
Avec plaisir.
Merci beaucoup pour cet échange Michel, qui nous éclaire sur le cadre de notre combat dans une société, on l'a vu, sécularisée, laïciste, qui nous invite à nous former aussi, vous l'avez dit, afin de mieux connaître les ennemis du Christ roi. Et pour, évidemment, le but, c'est d'être en mesure de travailler à l'établissement du règne social du Christ. Merci beaucoup.